Patrimoine, c'est une nouvelle émission sur Radio Judaïka et nous allons nous balader avec Yoav Rossano, le chargé de mission Patrimoine et Culture du Consistoire israélite du Bas-Rhin, dans les endroits remarquables du département du Bas-Rhin, les cimetières, les synagogues, les mikvés. On va découvrir ça tout au long de la saison. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant le cimetière de Königshofen qui a été créé en 1801, un très vieux cimetière et qui n'est plus actif depuis 1918. Yoav Rossano, bonjour. Vous allez nous emmener aujourd'hui en balade.
Bonjour Valérie, bienvenue au deuxième cimetière à Strasbourg. C'est un cimetière que personnellement j'aime beaucoup, mais je pense qu'il n'est pas très connu pour les membres de la communauté, même s'il se trouve à quelques kilomètres de notre choule. On va faire un petit balade, on va découvrir ensemble le cimetière, et tu vas voir et vous allez voir comment il est magnifique, comment c'est vraiment un paradis sur terre.
Alors, le cimetière est au milieu des habitations récentes et moins récentes. Il fait partie du paysage de Königshofen.
Alors, d'abord, on a beaucoup de écoles autour du cimetière. On a la piste bicyclable qui est très active. Et on a beaucoup de voisins autour, côté droite, à gauche. On a la maison de retraite qui est juste à côté. Et on a un concierge qui est là depuis longtemps. Et voilà, c'est un endroit qui est très actif. Et au milieu, en fait, au début, c'était une forêt. Au début, en fait, c'était un endroit pour se balader dimanche. Il y avait la forêt tout autour. C'était le côté dehors de Strasbourg. Alors, on va entrer au cimetière. Alors, déjà, on peut voir l'aspect naturel. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment la forêt presque tropicale, on peut dire. Il y avait beaucoup d'arbres et il y avait beaucoup de problèmes aussi avec des arbres, avec des racines qui sont poussées des tombes. Et en 1999, après la tempête, il y avait beaucoup de dégâts. Mais aujourd'hui, en fait, on a installé, on peut dire, des gazons partout sur le cimetière qui donnent un aspect beaucoup plus naturel, écologique et économique dans le même temps. Ça veut dire qu'on a arrêté de traiter des cimetières. Et on a encore quelques arbres. On a vraiment c'est un vrai musée, on peut dire. Parce que ce cimetière-là, en fait, va nous ramener dans l'histoire de la communauté juive.
Il est classé monument historique, ce cimetière.
Alors, le cimetière est classé, il est bien classé. Et c'est ça, en fait, qui nous motive aujourd'hui pour faire des travaux. Ça veut dire qu'on a un projet de restauration de cimetière. Pareil, la grange, on va restaurer pour faire un mini-centre éducatif. Et on va restaurer les stèles, les schémas, et l'inventaire de cimetière qu'on a commencé à travailler il y a 2 ans avec un bénévole qui vient d'Allemagne, une fois par an. Mais en fait, pourquoi c'est un musée? Parce qu'en fait, on a vraiment des traces de la communauté juive orthodoxe, on peut dire, rabbinique, et de l'autre côté, des businessmen, des médecins, des artistes et un peu de tout.
Alors j'ai entendu une histoire assez originale, ce sont des lapins, ça servait d'endroit où pouvaient gambader les lapins qui entretenaient naturellement les sols, on est loin des produits phytosanitaires aussi.
En fait, depuis 1935, les cimetières ont servi dans le même temps et voilà comment on dit, l'endroit pour faire grandir et produire des lapins. Et en fait, c'est ça qui a sauvé aussi le cimetière pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus de lapins ici. Et ils ont divisé le terrain par famille. Et en fait, les Allemands venaient récupérer seulement le bronze et le métal. Les tombes, les stèles, la pierre et tout ça, ils n'ont pas touché. Parce que ça appartenait aux voisins, on peut dire. Et c'est ça qui a vraiment sauvé le cimetière. Et on a de la chance par rapport à ça. Alors, merci les lapins.
Alors là, on est devant une stèle un peu particulière. Qu'est-ce que c'est? On dirait un arbre de loin.
Alors, on peut retourner au sujet de musée. Et ça veut dire qu'ici, on peut trouver différents types de stèles et de tombes. Différents symboles. Là, en fait, on a un arbre coupé. Et en général, on a fait ça pour le jeune garçon qui est décédé. après, on peut trouver différents symboles. On a des, pour les familles Lévi, il y a la cruche, on a des mâts de Kohanim, et il y a des symboles de arabesque, il y a un peu de tout, il y a pour les rabbins, pour le Moël. Et voilà, on va voir qu'on a vraiment une collection de symboles très riches dans un cimetière qui n'est pas très grand finalement. Alors, la dernière fois que j'ai compté ici, il y a à peu près 3000 tombes, sachant qu'il y a beaucoup qui sont disparues. Alors, quand on est entré du côté gauche, on peut voir qu'il y a un tout petit stèle, c'est pour les enfants.
Le carré des enfants.
C'est le carré des enfants qui était en fait l'autre côté du cimetière, mais qui était déplacé après la guerre à l'entrée du cimetière ici. Mais quand on va descendre les parties bas, on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de tombes des enfants et des jeunes garçons et filles qui étaient un peu détruits.
Et quand vous bougez une stèle comme ça, vous bougez l'ensemble du corps, du cercueil, je ne sais pas.
Alors, en général, on n'a pas le droit de toucher des stèles ni des tombes. Et ça, c'était fait vraiment après la guerre. Et je sais que le corps n'était pas touché. Le corps des enfants, ils sont encore en bas, en partie en bas des cimetières. On n'a pas le droit même de sortir des pierres des cimetières. Oui. C'est-à-dire des pierres qui ont été cassées, parce qu'on voit beaucoup de fragments de tombes ici. Alors, on met à côté, on essaie d'assembler, on laisse dans l'environnement. Mais on n'a pas le droit de toucher ou d'échanger les fonctions des pierres. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre une pierre de missier et mettre ça, et effacer, mettre sur une autre tombe.
Une allée en gravier ici pour arriver au fond du cimetière, ça n'a pas toujours été le cas?
Alors, ce n'était pas le cas. Et en fait, avant, l'état des cimetières était assez catastrophique. On peut dire qu'il y avait de la boue, il y avait des arbres et c'était des déchetteries en fait. Tout, franchement, c'était une déchetterie. Les gens sont jetés ici des sacs de poubelles, machines à laver, etc. C'était incroyable. Alors, le moment qu'on a commencé vraiment à nettoyer le cimetière, qu'on a engazonné le cimetière, en fait, tout à côté, il y a un voisin que je ne connais pas, qui m'a contacté. Il m'a dit, Monsieur Rossano, bonjour, je m'appelle, voilà. Et c'est magnifique les choses que vous avez fait en cimetière. Je dis merci beaucoup. Mais vous avez détruit le cimetière. Et je dis ah bon? Et en fait, il m'a expliqué que voilà, le cimetière juif doit rester naturel, romantique. Il faut laisser la nature faire son travail. Et en fait, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris que l'image de notre cimetière, c'est des cimetières abandonnés. Ça veut dire que les Juifs ne s'occupent pas de l'air mort, on peut dire.
Oui.
Même si on appelle le cimetière israélite Bet HaChaim, la maison des vivants. Et voilà, on fait le contraire. Et c'est ça qui m'a motivé, le consistoire aussi, de s'occuper, l'entretien des cimetières et faire connaître aussi le cimetière. Et en fait, après discussion avec les voisins, il a compris en fait. Que la vision ou des visions générales qu'on a ici, et c'est de mauvaises images. Et aujourd'hui, on est en train de changer cette image de cimetière abandonné, romantique, on peut dire.
Qui font aussi la beauté de l'endroit. Souvent, ces stèles plus que centenaires. Hein.
Oui, alors le cimetière a été créé en 1801. Et en fait, c'était vraiment le premier cimetière ici à Strasbourg, et avant Kronenbourg, qui était créé en 1910. Et Kronenbourg, c'est la continuation de ce cimetière ici. Mais encore une fois, ici, on a beaucoup de gens très connus et très importants par rapport à la communauté et par rapport à Strasbourg même. Alors, à l'époque, vers 1820, on a différents membres de la famille Ratisbonne, comme Flore Ratisbonne, qui est née Serf Ber. Alors, il s'appelait Louis Ratisbonne, c'est une personne qui était très importante. Et il a créé différents endroits, comme la Fondation Elisa, l'École de travail, et voilà, différentes associations sociales pour aider différentes personnes. Et pas seulement membres de la communauté juive. Après, on a aussi beaucoup de médecins ici. On a une tombe qui est magnifique, je vais te montrer, oui. qui se trouve en bas. C'est une tombe de Dr. Ruff. Alors, c'est médecin pour les pauvres. C'est marqué comme ça. C'est marqué en hébreu aussi. Et en fait, ce médecin qui a s'occupé de beaucoup de monde. Et après son décès, en fait, il y avait un hommage. Il y avait à peu près 400 personnes qui ont collecté de l'argent. Ils ont ramené une pierre énorme. C'est incroyable. C'est un projet égyptien presque. Et voilà. Et c'est une magnifique pierre qu'il faudra quand même restaurer parce qu'elle est en train de tomber. Après, on a les créateurs d'Exilophone, Aken Ixofen. En fait, il s'appelait Samson Jakubowski, qui était polonais, qui est venu ici en Alsace. Et en fait, il a créé, il a inventé, ou réinventé l'Exilophone. Quand même, c'est un grand honneur d'avoir un instrument comme ça au cimetière.
Et en plus, donc, vous le disiez, de l'inventeur du xylophone, on retrouve également, bien sûr, des rabbins, et dont un grand rabbin, personnage illustre.
Alors, on a le grand rabbin Moïse Bloch, qui était surnommé le Hochem de Hottenheim. Voilà, et il est décédé en 1868. Alors, il y a la tombe de lui et de sa femme à côté. Et si on regarde, on y va bientôt, on va voir toutes les lettres de l'alphabet en hébreu. Et chaque lettre, il y a une phrase. Voilà, qui donne un peu de description de son caractère. Quelqu'un qui aimait les gens, quelqu'un qui enseignait la Torah, etc. Voilà, en fait, la chose qui est géniale, c'est qu'il y a des tombes qui parlent. Ça veut dire qu'il y a des textes qui expliquent vraiment par rapport à la personne. Ce n'est pas seulement le rabbin, parce qu'on trouve aussi des autres tombes avec quelqu'un qui était malade, et on raconte son histoire de maladie. Mais il y a vraiment la chose qui est magnifique et qu'on trouve un peu partout. C'est des tombes qui parlent, qui racontent l'histoire privée ou personnelle de la personne. Voilà, je pense que c'est le seul qui se trouve ici à Aken Ixofen. Malheureusement, il est presque cassé. Il faudra restaurer. Et en fait, c'est vraiment des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et il y a une collection incroyable de différents types de tombes et de stèles. On a des tombes qui sont et des stèles horizontales, verticales, et une forme botanique, et une forme un peu comme là-bas. On peut voir presque une sarcophage.
Oui, c'est ça.
C'est incroyable. Voilà, en fait, il y a l'inspiration qui est locale. Et il y a obélisque, il y a un peu de tout. En fait, ici, la chose qui est... on trouve énormément d'utilisation de grès de Vosges, qui est magnifique. Mais avec le temps, il se dégrade énormément. Alors, tout en bas, on voit l'énorme tombe de pierre de médecin qui a aidé pour les pauvres. Et la partie gauche, là à côté de la forêt, on appelle ça encore la forêt parce qu'il reste encore quelques arbres. Et là-bas, il y a le quartier où on trouve des tombes des enfants. Alors il y a aussi de temps en temps des petites histoires qui racontent aux enfants quel âge, qui était, quelle famille. Et voilà, c'est des choses qu'il faut absolument sauver. Et en fait, aujourd'hui, on est là pour sauver les cimetières. Le but, c'est vraiment... assembler tous les acteurs, la région, les départements, les consistoires, la ville, etc., pour vraiment faire comprendre qu'on a un trésor à Strasbourg, presque au centre-ville, et qu'il faudra sauver ça. C'est fini le temps de déchetterie, c'est plus de déchetterie, et c'est vraiment un endroit qu'il faut venir visiter, qu'il faut venir pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Il y a beaucoup d'écoles à côté, en fait, il faut inviter tout le monde pour faire comprendre qu'est-ce que c'était d'abord la communauté juive, qu'est-ce que c'est un cimetière juif. Et par rapport à ça, on explique beaucoup de rituels et on comprend aussi qu'est-ce que c'est le judaïsme par rapport au cimetière.
Et rappeler l'histoire juive de Strasbourg, quand elle s'est développée, comment, et que c'était une communauté très vivante ici, à Königshofen en l'occurrence.
Voilà, alors c'est une occasion, en fait, on peut dire presque profiter de cet endroit pour réunir des gens, pour faire comprendre que la communauté juive était une partie de Strasbourg même, pour la construction depuis le temps médiéval, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, voilà, j'appelle encore une fois tout le monde pour venir participer avec nous. Et voilà, il y a beaucoup de mauvaises herbes, il y a des choses à faire, il y a de l'inventaire à faire. Et si vous êtes motivé, on est le portail, comme vous avez entendu. Elle fait un peu de bruit, mais elle est ouverte.
Il faut des notions d'hébraïque, je suppose, pour répertorier tous les noms qui sont sur les stèles.
Alors, il y a différents aspects techniques qu'on peut faire, pour faire des inventaires. Il y a d'abord les photographies. Il faut photographier les stèles. Il faut écrire quel état la stèle, de stèle, comment, quels travaux il faut faire. Et après, il y a beaucoup de, c'est vrai, il y a beaucoup de stèles qui sont en hébreu, mais il y a aussi des périodes françaises et périodes allemandes. Et voilà, en fait, on a besoin de tout le monde pour aider ici. Et je pense que c'est une occasion aussi pour la ville. Ils ont un trésor juste à côté Place des Étoiles. Et voilà, on n'est pas loin, c'est ouvert à tout le monde et il faut vraiment faire grandir ce cimetière.
Vous dites qu'il est ouvert à tout le monde par sécurité, il est pas, la grille n'est pas fermée?
Alors le portail est fermé, mais il y a un concierge qui s'occupe du cimetière, ça suffit de sonner, on prend rendez-vous pour visiter.
Est-ce qu'on connaît les veilleurs de mémoire en milieu rural qui veillent sur les cimetières juifs qui sont isolés? C'est le cas ici aussi?
Alors ça commence. C'était déjà de manière naturelle. Et je pense qu'il y a une dame qui habite juste à côté là. Et je pense qu'elle est de manière naturelle veilleuse de mémoire depuis 25 ans. Et voilà, alors on a fait la connaissance il y a un an. Et en plus, elle vient ici pour faire des dessins avec un groupe de femmes. Et c'est chouette. C'est-à-dire que ça fait vivre le cimetière. Et comme l'autre voisin qui a dit que vous avez détruit le cimetière, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, et les passagers avec des vélos regardent aussi. Et on a beaucoup de retours en fait par rapport à l'état des cimetières. Et on a actuellement beaucoup de compliments aussi, mais c'est pas assez. C'est-à-dire on n'est pas arrivé encore à ça. Il y a beaucoup de stèles et de tombes qu'il faut restaurer, qui sont un peu par terre, et il y a un nettoyage à faire. Et il y a beaucoup de travail encore à faire, mais je pense qu'il faut faire ça un peu comme partout, tout de suite, parce que le temps passe très vite et l'état des pierres se dégrade. Et voilà.
C'est un trésor inestimable qu'on risque de perdre.
Absolument, absolument. Et c'est aussi par rapport à la mémoire des gens.
Merci Yoav Rossano pour cette balade au cimetière de Königshofen. J'espère que vous en aurez appris plus.
Merci Valérie.